les enfants de Chronos. Bonjour à tous, chers auditeurs, Colabilo, archéologue. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre série consacrée aux châteaux médiévaux du Valois. Aujourd'hui, le château de Thiers-sur-Thève. En lisière de la forêt, là où se rejoignent les massifs forestiers de Chantilly et d'Ermenonville, subsistent les vestiges d'un curieux vaisseau de pierre que l'on prendrait volontiers pour une église, le château de Thiers-sur-Thève, classé monument historique en 1862. Le château de Thiers-sur-Thève est probablement construit ex nihilo autour de 1230-1250 par les Bouteillers de Senlis. Les Bouteillers de Senlis étaient les puissants seigneurs du pays de Senlis depuis le XIIe siècle, dont la généalogie est encore aujourd'hui pour les historiens un écheveau bien difficile à démêler. Les héritiers des Bouteillers vendront le site de Thiers en 1276 à l'évêque de Beauvais, Renaud de Nanteuil, un personnage issu de notre territoire, qui y ajoutera sa partie, on le verra, et qui le lèguera à son tour à l'évêché. Puis, plus intéressé par la chasse que par le site, Anne de Montmorency rachètera la seigneurie et son château en 1564, sans jamais ni y bâtir, ni vraisemblablement y venir. Le château est ruiné au milieu du XIVe siècle. Peut-être la cause en est la jacquerie, la grande jacquerie, ce soulèvement populaire et paysan de 1358, né à Saint-Leu-d'Esserans suite à, nous dit-on, un échauffouré entre des gardes et des carriers. Charles V autorise l'évêque à ne pas le rebâtir après cette destruction et malgré une enquête qui nous dit qu'il était potentiellement réparable. En 1431 encore, il serait l'objet d'une obligation de démantèlement par le roi Charles VII, en même temps que de très nombreux châteaux du Valois, parmi lesquels, par exemple, son voisin, le magnifique château de Pontarmé. Cet ordre de démantèlement doit se comprendre ainsi. L'objectif est qu'il ne serve pas de refuge, ni aux Anglais, ni aux Bourguignons, ni aux brigands ou aux troupes de routiers, c'est-à-dire à tous ces gens de guerre qui essaiment dans le territoire et qui sont les adversaires directs de la couronne de France. Tout ceci implique que la ruine témoigne d'une construction qui finalement n'a vécu vraiment qu'un gros siècle. Figurez-vous donc un château à base presque carrée, de 57 mètres de côté, flanqué de 9 tours circulaires à archères, chacune faisant environ 10 mètres de diamètre et probablement 3 niveaux à l'origine. L'une est à chaque angle, l'une est au milieu de chaque courtine, et deux encadrent la seule porte d'accès au château depuis le village, depuis le sud. Voici donc ce qu'on appelle un représentant typique de l'architecture philippienne. Cette expression fait référence au modèle d'architecture développé par le roi Philippe Auguste dans son château du Louvre à Paris, et qui fera école. Bon, en réalité, les murs et les tours sont bien minces comparés à ceux du modèle. À peine 2 mètres d'épaisseur. Des détails structurels manquent. Par exemple, il nous manque les voûtes de chaque niveau des tours. Mais tant pis, la formule est là, et c'est ce que le maître d'œuvre a voulu nous faire comprendre. On est en droite lignée du parti français, et ce n'est pas innocent, puisqu'on doit vraisemblablement l'origine de la forteresse aux Bouteillers, qui étaient les fidèles serviteurs des rois de France dans cette partie du domaine royal. Et même si le site est aujourd'hui très ruiné et morcelé, entre de nombreux propriétaires, situation qui empêche d'ailleurs d'y flâner facilement, il conserve en son sein la ruine d'un édifice extraordinaire, doté, d'après un éminent spécialiste de l'architecture, d'une des plus belles façades d'architecture résidentielle médiévale offerte par l'architecture seigneuriale. Comment le comprendre ? Au-dessus d'un premier niveau de rez-de-chaussée assez frustre, construit partiellement en blocs de grès, solide, ce qui était nécessaire dans un fond de vallée humide, se dessine en fait un magnifique étage, une grande salle, une aula, comme auraient dit en latin les gens du temps. Cette grande salle est l'espace public ou semi-public du site. Elle est disposée côté sud, tout au long de la façade, de telle manière qu'elle constitue presque un logis-porche, très caractéristique d'une architecture d'apparat, d'une architecture qui se montre, je dirais même d'une architecture qui s'impose. Cette grande salle de 25 mètres sur 8, ouverte vers la cour par d'immenses verrières dont témoignent encore les arcs nus, est en revanche ouverte vers les fossés par une série de jolies fenêtres à meneaux et à tympan ajouré d'un quadrilobe, ses trèfles à quatre pétales, caractéristiques de l'architecture gothique. Ce sont ces éléments qui, lorsqu'ils sont vus la première fois, peuvent donner l'impression que l'on a affaire à une église en ruine. Mais n'oubliez pas que cette aula, que cette grande salle, perché sur un niveau qu'on devait aux bouteillers de senlis, est en fait le fruit du souhait et de la construction d'un commanditaire qui n'était pas moins que l'évêque de Beauvais, un des personnages les plus puissants du royaume, et qu'il avait très clairement choisi ici un parti architectural inspiré d'une architecture religieuse. À l'angle sud-est, en prolongement de la salle, on trouve d'ailleurs le témoin de ce qui fut une grande chapelle, intégrée dans une des tours d'angle et ouvrant directement dans la salle. Les voûtes d'ogives des deux niveaux et les élégantes moulures, comme les colonnettes ou les chapiteaux feuillagés, témoignent d'un bel édifice. Si l'on ajoute différents éléments, dont les indices sont plus discrets encore, tels que des latrines à l'ouest, vraisemblablement en encorbellement au-dessus des fossés, c'est-à-dire perché au-dessus des fossés, et vraisemblablement en bois, c'est-à-dire des structures qui pouvaient être amenées à être démontées. Et si on ajoute aussi quelques éléments défensifs de l'entrée qui semblent néanmoins se résumer à une simple paire de vantaux, de portes, on constate que l'on a encore, à Thiers-sur-Thève, la preuve que beaucoup des châteaux du Moyen-Âge sont loin d'être aussi forts qu'on ne le dit sans cesse, et que le point résidentiel prime. À Thiers-sur-Thève, je dirais même que la résidence est en réalité essentiellement confondue avec un parti ostentatoire et symbolique, et que ce sont les deux marqueurs principaux de ce que l'on doit appeler une résidence de campagne, qui fait déjà office de palais dès le XIIIe siècle, bien plus que de forteresse. La fonction résidentielle est donc même doublée d'une fonction symbolique et ostentatoire forte, et pourtant nous n'y trouvons pas ce fameux donjon qui résume bien souvent à nos yeux ce que devrait être un château médiéval, mais n'oublions pas que finalement une grande majorité des châteaux du Moyen-Âge n'ont pas eu le droit à leur donjon, puisque le fait de bâtir un donjon était une concession faite par le roi ou le suzerain à un seigneur, et que loin s'en faut que tous les seigneurs aient eu ce droit. Le château est donc ouvert vers l'extérieur, sur cette façade logis, par deux fenêtres qui sont percées à travers l'enceinte. Le logis n'est pas en fond de cour, comme on le trouvera très souvent à la période suivante et comme on le trouvait encore régulièrement à cette période-là. Ce logis-là doit être vu. C'est donc le signe d'un temps où la paix régnait sans ombre sur le royaume de France. On est au siècle de Saint-Louis, on est dans un moment où la guerre est reportée sur les marges du royaume, voire même dans les territoires étrangers. Elle est en tout cas bien loin de Paris, bien loin du Valois, et on peut se permettre de bâtir essentiellement des châteaux résidentiels. L'évêque Renaud, puisque c'est à lui que nous devons ce réaménagement du château des Bouteillers, nous a légué le témoignage d'une architecture palatiale raffinée du XIIIe siècle, qui emprunte beaucoup au code de l'architecture religieuse, chapiteaux, colonnes, chapelles, trilobes, arcs brisés, voûtes. Mais néanmoins, il avait tout de même décidé probablement de limiter certains de ses emprunts, à commencer par le fait que cette grande salle, de plus de 20 mètres de long, n'était vraisemblablement couverte que d'une charpente lambrissée, marqueur évident du fait que toute l'architecture religieuse ne pouvait pas trouver d'adaptation dans l'architecture laïque. C'est un château remarquable qui mérite d'être redécouvert en allant se promener le long de la place du village de Thiers-sur-Thève et de bien comprendre aussi à quel point ce château prend place dans un territoire idéal, dans un terroir remarquable, semi-marécageux, boisé, centre idéal de chasse pour Anne de Montmorency encore au XVIe siècle, et qu'il offre un écrin de verdure formidable à une architecture complexe, mal conservée par endroits, il est vrai, mais qui a constitué un élément architectural suffisamment remarquable pour qu'il soit classé dès 1862 sur la deuxième liste de classement du monument historique créé. Et en ce sens, il a fait partie, au même titre que de très nombreux monuments tels que le château de Coucy, d'édifices qui ont intrigué les chercheurs depuis le XIXe siècle et sur lesquels restent encore des zones d'ombre que la recherche essaye d'éclairer d'un jour nouveau. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode pour un nouveau numéro sur le château de Sémon. À bientôt.